Dieu généreux. Il l'est de toute manière, mais il fait selon ce que nous faisons aussi. Donc n'ayez pas, ne vous retenez pas, effectivement. Je crois que c'est pas toujours facile d'aller chercher les gens, mais c'est un service, c'est une grâce. Et voilà, je pense qu'il faut penser aux autres. Amen. 1 Roi, chapitre 13, ce sera notre lecture. Pendant que vous cherchez, on va prier pour Violette aussi, voilà, qui est souffrante, qui est sous oxygène, qui a besoin de la grâce de Dieu. Donc 1 Roi, chapitre 13. Seigneur, tu fais grâce à notre sœur Violette, tu sais ce par quoi elle passe, tu vois ses contraintes, et nous savons que tu peux, Seigneur, là aussi intervenir et même la libérer de ces choses. Tranquillise le cœur de son conjoint qui est avec nous, bénis aussi Mélinda, fais leur grâce. Seigneur, sois béni pour tout. Amen. Amen. Voilà, dans l'Ancien Testament, premier livre des Rois, chapitre 13, verset 1er. Un roi, chapitre 13, verset 1er. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le !» Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. » Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. » Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Parce que tu es retourné, tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré, l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit « Scellez-moi l'âne ». Ils le scellèrent et partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans la ville de Samarie. » Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Amen. Voilà, la lecture était longue mais nécessaire, puisque je souhaite que nous puissions nous intéresser tour à tour à chacun des trois personnages principaux de ce récit. Et d'abord, faire un cours historique, rappeler que Salomon, qui régnait sur l'ensemble d'Israël, malheureusement s'est éloigné de Dieu, a servi des dieux étrangers et même des dieux cruels. Et en conséquence de cela, Dieu a dit, voilà, il y aura division après toi et une partie d'Israël se séparera d'une autre. Et c'est ainsi que Dieu a confié à Jéroboam le règne sur 10 tribus d'Israël et qu'il n'a laissé au fils de Salomon, appelé Roboam, qu'une seule tribu qui est Juda. Et donc nous avons cet homme, Jéroboam, qui a été établi par Dieu comme roi avec une promesse conditionnelle. Je vais la lire. Dieu dit à cet homme, « Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable comme j'en ai bâti une à David et je te donnerai Israël. » C'est le chapitre 11, les versets 37 et 38. Promesse de Dieu, je t'établis pour être roi sur 10 tribus. Et voici, il y a tout de même une condition pour que ton royaume soit stable, pour que tu n'aies point de problème finalement insurmontable, mais que en toute chose je sois avec toi, il faut que toi-même tu obéisses à ma parole. Relativement simple finalement, mais pas si simple que cela en réalité à accomplir, on le sait bien, hein, on le voit bien dans la vie de cet homme, et on le voit hélas dans beaucoup de vies. Et finalement il nous est dit que Jéroboam va examiner les choses dans son cœur, il dit à son cœur, il parle à son cœur, et il dit « ouï, 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 ouï ». Le problème, c'est que les gens sur lesquels je règne, ils vont devoir aller à Jérusalem pour célébrer Dieu. Et si ça se trouve, ils vont s'attacher finalement au peuple de Juda. Et puis, ça va mal se passer, ils vont me tuer. Ça y est, il a déjà fait le film. Il a déjà imaginé la catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe, mais il l'a déjà imaginer. Et à partir du moment où il l'a conçu dans son esprit, il se dit, il faut que je mette en place des protections. Il faut que je me préserve par rapport à tout ça. Et il entre dans une stratégie. Et il nous a dit qu'il a pris conseil tout de même. Mais vous savez, c'est pas parce que vous avez pris conseil que les conseillers sont de bons conseillers. Il faut savoir vers quel conseiller on se tourne, finalement. Il y a beaucoup de conseillers dans le monde. Mais il vaut mieux retenir les conseillers fidèles à la parole de Dieu, parce que même dans les églises, il peut y avoir différents conseillers, mais encore faut-il être bien certain qu'ils sont fidèles à la parole de Dieu et que le conseil qu'ils vont donner est en accord avec la parole de Dieu. Pas à peu près, mais pleinement en accord avec la parole de Dieu. Mais voici cet homme, donc, il envisage que ça puisse mal se passer, il prend conseil, et alors il va, et vous pourrez le relire, on aurait pu le lire, mais c'était trop long, mais il va mettre en place un culte qui ressemble à celui d'Israël, à celui de Juda. Il va mettre en place les deux veaux d'or, vous relirez cela. Il va établir des prêtres, il va établir des fêtes, et il va dire, voilà, il n'y a plus besoin maintenant d'aller de l'autre côté, de passer la frontière pour aller à Jérusalem. Vous restez là, on a tout ce qu'il faut. Vous savez, l'homme est comme ça, et ça peut être un danger pour nous, d'imaginer, parce que parfois il n'y a même pas de problème, mais il peut aussi y en avoir, mais il y a des situations où simplement on se dit, il pourrait advenir que. Et à partir de là, on commence à établir un certain nombre de stratégies pour se mettre à l'abri. Le problème, c'est que bien souvent, les gens mettent en place des stratégies qui ne sont pas celles de Dieu, qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Finalement, c'est une défiance par rapport à Dieu. Il n'a pas confiance en Dieu. Vous ne le voyez pas prier Dieu. Quand peut-être tu dis à ton cœur qu'il y a des choses, la solution, c'est quand même de prier Dieu en disant, voilà, je suis agité. Seigneur, j'ai besoin de savoir que tu es avec moi, j'ai besoin de vérifier aussi peut-être mes voies, j'ai besoin, si je dois envisager des choses, qu'elles soient en accord avec ta parole. Peut-être, évidemment, à vue humaine, si vous relisez, vous allez dire, ça ressemble à peu près quand même au culte de Dieu. Mais que ça ressemble, c'est pas bien. C'est pas que ça ressemble. Il faut que ça soit conforme à ce que Dieu a édicté. Alléluia. Alléluia. Et l'Église peut être en danger aussi. D'échafauder des stratégies, de mettre en place des plans, un certain nombre de choses qui, à vue humaine, peut-être semblent être de la sagesse, mais si ces choses ne sont pas conformes à Dieu, ça ne vaut rien aux yeux de Dieu. Et c'est désapprouvé par le Seigneur. Et effectivement, mardi, avec ceux qui étaient là, j'évoquais l'église de Sardes, dont il est question dans le livre de l'Apocalypse, où il est dit « tu passes pour être vivante ». Aux yeux des hommes, c'est une église vivante. Peut-être qu'on dit c'est bouillonnant là-dedans. Hein. Parfois, on entend dire ça d'une église. Hein. Oh là, c'est vivant. Mais la question, c'est est-ce que c'est vivant de l'esprit ou de la chair? Ce que nous qualifions, nous, de vivant, est-il selon la vie de Dieu ou est-ce que c'est la vie de l'homme qui s'exprime? Et je ne voudrais pas que, collectivement, mais individuellement également, nous puissions passer pour être vivant spirituellement et qu'en réalité Dieu dise mais tu es mort, tu es mort, c'est pas ça la vie de Dieu. Et je crois que l'Église doit examiner ses voies, et la question n'est pas d'examiner les voies de l'autre Église mais de la nôtre, de nous-mêmes, pour savoir si ce que nous faisons vraiment est conforme à la parole de Dieu, à ce que Dieu nous a édicté et ce qui va être bon et agréable au Seigneur. Alléluia. Alors Jéroboam imagine, suppose qu'il y aura un problème. Il était question d'un cœur qui est inquiet ce matin, il y en a peut-être plusieurs d'ailleurs d'inquiets. Et parfois l'inquiétude, elle n'est pas fondée, elle est sur des suppositions, mais elle peut aussi être fondée, hein, bien sûr. Parfois aussi d'ailleurs on grossit le problème. Donc il est important de pouvoir examiner les choses avec le Seigneur, mais de toute manière de pouvoir compter sur le Seigneur et d'adopter les solutions, les mesures qui sont conformes à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. On voit cet homme qui non seulement donc établit un faux culte, Jéroboam, mais qui en vient lui-même à pratiquer les choses. Il est là sur l'autel, il joue le rôle du sacrificateur et finalement il n'y a personne pour lui dire que ce qu'il fait n'est pas bien, qu'il n'a pas le droit de le faire, puisqu'il s'est établi, il s'est proclamé lui-même. C'est lui qui décide. Vous savez, c'est dangereux quand c'est l'Église qui décide. C'est Dieu qui doit décider. Il y a beaucoup qui ont rajouté les traditions à la parole de Dieu. Mais pour nous, il y a pas, les traditions sont humaines, tout simplement. Elles éloignent les gens de Dieu. Ce qui est conforme, c'est ce que Dieu nous a laissé. Alléluia, dans sa parole. Amen. Et donc, à partir du moment où cet homme, finalement, entreprend des choses, il n'y a personne pour lui résister. C'est bien dommage. Mais Dieu, dans sa sagesse, Dieu, dans son amour, envoie un homme de Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu qui vient, qui crie sur l'autel, qui, finalement, dérange Jéroboam. Et quand Jéroboam décide finalement de faire taire cet homme, Jéroboam se trouve avec la main sèche, il ne peut plus la bouger. Vous avez vu, là tout d'un coup, il est prêt à prier Dieu. Hein. Implore ton Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, le guérit. Et les choses se passent. Jéroboam devrait être touché par ce qui arrive. Mais vous l'avez lu comme moi, il ne se détourna pas de sa mauvaise voie. C'est terrible. Quand l'homme averti par Dieu, voyant parfois même des choses remarquables de la part de Dieu, ne se détourne pas de ses mauvaises voies et qu'il continue. Et la Bible nous dit ensuite, comme un refrain, que tous les rois qui vont succéder ont commis les mêmes péchés que Jéroboam. C'est-à-dire qu'il a eu un impact sur des générations, ils ont commis les mêmes péchés. Parfois les gens disent aussi, finalement moi, la façon dont je sers Dieu, c'est celle de mes pères. Mais si celle des pères n'est pas bonne, quand bien même elle remonterait à plusieurs siècles, Si c'est pas bon, c'est pas bon. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Il faut revenir à la parole. Alléluia. Amen. Entendre les avertissements quand Dieu parle, et je crois que dans son amour et dans sa grâce, Dieu parle encore. Alléluia, parce que ce qu'il voulait, c'était le bien finalement. Mais donc voyons cet homme, Jéroboam, qui a une promesse, mais il faut qu'il garde confiance en Dieu. Et la confiance, ce n'est pas simplement dire j'ai confiance en Dieu, c'est aussi l'obéissance. La confiance, elle est associée à l'obéissance, à dire j'exécute les choses telles que Dieu me les a enseignées. Amen. Si quelqu'un est dans le péché, eh bien il faut revenir tout simplement à ce que Dieu a enseigné. Alléluia. Amen. Parce qu'on voit bien que dans les églises, il y a des choses qui finalement gagnent du terrain parce que petit à petit, eh bien, des gens s'écartent. Alors, c'est pas grave en apparence, mais petit à petit, eh bien, d'autres le font et puis c'est de plus en plus. Il faut revenir à la parole. Alléluia. Amen. Alors, nous avons ce roi Jéroboam qui évoque ceux qui effectivement mettent en place des choses mais qui ne sont pas conformes à Dieu. Cet homme qui, bien qu'il ayant eu une promesse, finalement n'a pas confiance en Dieu et a plus confiance dans le conseil de ceux qui l'entourent et son propre conseil, finalement, il parle à son cœur et c'est son cœur qui lui répond. Hein. Et puis nous avons un vieux prophète qui, entendant ce qui est arrivé, va vouloir rattraper l'homme de Dieu qui est normalement reparti chez lui, qui est sur le chemin. Et je me suis arrêté quand j'ai évoqué cela, quand il lui a parlé, quand il lui a dit « Un ange m'a parlé, oh là là, non, non, maintenant, au contraire, c'est plus comme Dieu t'avait dit, c'est plus tout à fait ça, un ange est venu me voir moi pour te dire à toi. » Dans ces cas-là, l'homme de Dieu aurait pu dire « Écoute, puisque au départ Dieu m'avait dit, il pouvait me le redire à moi tout de suite, hein, plutôt que de passer par quelqu'un. » Bon, mais ce qui m'a frappé, ce qui est terrible, c'est « Il lui ment. » Il mentait. Un prophète, il ment. Un chrétien qui ment. Réalisons, je l'ai souvent rappelé, que d'abord le père du mensonge, c'est Satan, oui, le diable. Que mentir, c'est une voie qui va vous entraîner dans bien des échecs. Mais ce que je remarque ici avec vous, c'est que la victime, ce n'est pas celui qui a menti, c'est celui à qui on a menti et qui a cru. Vous avez vu les conséquences d'un mensonge ? La mort d'un serviteur de Dieu. Et on sait que parfois, il y a eu des guerres qui ont résulté de mensonges. Une fausse information, et puis à partir de là, on s'est dit, oh, il y a quelque chose qui ne va pas, on va s'armer, on va aller. Il y a eu des morts par le mensonge. Vous croyez que le chrétien doit mentir? Moi, je dis que non. Hein. Il y a des situations où le mensonge va avoir pour répercussion la mort de l'autre ou d'un autre. Mais il y a aussi des situations où le mensonge finalement a conduit à ce que Dieu frappe celui qui mentait. Vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils étaient bien intentionnés. Hein. Il y a Pierre qui a vendu un champ. En plus, c'était pas mal ton champ. Hein. Et ils se sont dit, nous aussi on a un champ et on va le vendre. C'est bien intentionné, sauf que peut-être ils n'ont pas la même foi que Pierre. Enfin, comprenez, Barnabas au cas particulier. Et ils sont prêts à ne donner qu'une partie, c'est leur droit. Seulement, ils ont voulu paraître et ils ont dit, c'est le prix du champ. Certains diront, oh, Seigneur, quand même, sois indulgent, ils sont très bien intentionnés. Regarde, il y en a d'autres qui n'ont rien donné. Ils sont morts. Imaginez si, lorsqu'il y a mensonge, on devait mourir. Le mensonge n'est pas bon. Il ne fait pas l'œuvre de Dieu. Il ne nous sert pas. Il peut servir en apparence, mais de toute façon, plus ou moins, il se retournera contre celui qui ment. Mais encore une fois, il peut avoir des conséquences terribles. Et puis, il y a une chose aussi dont moi, je me souviens toujours, c'est que même si on ne voit rien sur le plan naturel, il y a des conséquences dans le monde spirituel. il y a des choses que l'on fait qui ont des conséquences. C'est inscrit dans le monde spirituel et ça a des conséquences. Il y a un homme qui un jour est venu voir le roi David. David était, souvenez-vous, pourchassé par Saül. Et Saül, lors d'une guerre, finalement, a fini par se donner la mort parce qu'il ne voulait pas tomber entre les mains des ennemis. Et il y a un homme qui s'est dit, ça c'est la bonne affaire. Je vais aller voir David et je vais lui dire, Saül, celui qui te pourchassait, ton adversaire là, je l'ai tué. Bonne nouvelle, je l'ai tué. Ceux qui connaissent l'Écriture savent que David a été affligé en disant, mais Saül, c'était, même s'il me pourchassait, même s'il se comportait mal, c'était un homme que Dieu avait établi. On ne devait pas le toucher. Et David va dire, sur la déclaration, sur ta déclaration, tu dis que tu as tué, eh bien on va te mettre à mort. Cet homme mentait pour obtenir un avantage, pour obtenir une faveur. Il s'est peut-être dit, il va me donner une bonne position, il va me donner de l'argent, etc. Il s'attendait finalement à recevoir quelque chose. Mais son mensonge s'est retourné contre lui. Et là aussi, ce que je veux dire, c'est que nos paroles ont un impact. Il a été, David lui dit, c'est sur ta parole. Je te juge sur ta parole. On a l'impression que David se doutait bien que ce n'était pas vrai. Il aurait pu lui dire, bon, je vais te laisser parce que je sais bien que ce n'est pas vrai. Mais non, il lui dit, puisque tu as prétendu l'avoir tué, et qu'à mes yeux, ce que tu as fait, le meurtre de Saül, c'est une faute grave, eh bien tu vas mourir. Qui a envie de mentir encore? J'insiste parce que dans les églises, il y a des gangrènes, le mensonge en fait partie. C'est vrai, hein? Et encore une fois, il y a des conséquences, des lourdes conséquences parfois. Alors, soyons vrais. Amen. Les uns avec les autres, mais aussi avec les gens du dehors, hein? Bien sûr, on doit être vrai. Alors, que voulait ce vieux prophète? Peut-être se disait-il, si j'arrive à le faire venir chez moi, ça me réhabilite un petit peu. Hein? Ça me rehausse aux yeux des autres. Cet homme remarquable que Dieu a envoyé, il vient chez moi, je le reçois, je suis prophète, moi aussi, je suis homme de Dieu comme toi, je suis serviteur de Dieu comme toi. Sauf que, il semble qu'aux yeux de Dieu, il n'est plus comme l'autre. Puisque Dieu ne l'utilise pas, que fait-il là? Est-il dans le compromis? Si finalement nous sommes dans le compromis, la question n'est pas de chercher à dire « je voudrais être réhabilité et qu'on me voit avec tel et tel frère et qu'on puisse dire « ah, oh, il est extraordinaire ». Non, le besoin, ce n'est pas de chercher à paraître, c'est là aussi de se ressaisir et de retrouver les voies conformes au Seigneur. Alléluia. Et c'est là qu'on sera béni. Amen. Et puis maintenant, le troisième personnage, c'est l'homme de Dieu. Qui est venu avec une parole claire de la part de l'Éternel, à la fois ce qu'il devait prononcer contre l'autel, et puis ensuite, comment il devait repartir. Tu ne dois pas rester là, bien sûr, tu ne dois pas retourner en arrière, tu rentres chez toi après. Et quand le mauvais roi, finalement, Jéroboam, lui propose de rester là, il dit, et pourtant il aurait pu se dire, c'est un roi, c'est pas facile de dire non. Hein. Mais là, c'est clair pour lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, je ne peux pas rester, j'ai un ordre formel, je pars. Mais quand c'est le prophète, le vieux prophète, c'est plus difficile, parce qu'il se dit, c'est un serviteur comme moi. Et puis il est plus vieux, donc il est plus expérimenté, il est plus sage. Je peux lui faire confiance. C'est terrible. Finalement, ce n'est pas le monde qui le fait chuter. C'est le collègue. C'est terrible. C'est le collègue qui le fait chuter. Et on doit constater parfois que les embûches peuvent venir de ceux qui confessent pourtant le même Seigneur. Et ça ne devrait tout de même pas être le cas. S'il y a bien un endroit où on doit se trouver en sécurité, en paix, et où il doit y avoir une pleine et entière confiance, c'est dans la maison de Dieu. Les embûches, qu'elles viennent de ceux qui sont étrangers à la maison de Dieu, ça on le comprend. Mais dans la maison de Dieu, tout devrait être clair. Alléluia. Mais il faut bien admettre que ce n'est pas toujours le cas. Et c'est triste. Et il faut prier justement, afin que dans la maison de Dieu, justement, ce qui ne va pas puisse ne pas perdurer, mais qu'il y ait un esprit de repentance. Pour certains, c'est la repentance, hein, tout simplement, qui est nécessaire. Et repentance, ce n'est pas simplement pleurer, mais c'est de dire « je change ». Je change de comportement. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, j'avertis souvent sur foison de prophètes. Il y a foison de prophètes aujourd'hui. Hein. Mais ce n'est pas parce qu'ils se déclarent prophètes qu'ils sont prophètes, de Dieu en tout cas. Ce n'est pas l'autoproclamation qui compte. Hein. Et il y a une chose qui est nécessaire, c'est d'examiner. Il faut examiner. Et parfois, examiner, ça va prendre du temps. Vous savez, récemment, ça m'a aussi interpellé, on a eu un vote en pastoral, et finalement, on nous expose les choses, on prie un peu, et puis après, il faut voter. Il y a des fois où ça ne pose aucun problème, il y a des fois où on se dit, je ne peux pas voter tout de suite, j'ai besoin d'examiner, sur des faits plus importants ou plus difficiles. Il y a besoin d'examiner. Et on a besoin d'examiner à qui on a affaire. Qui nous distille tous ces messages ? Sont-ils en accord avec la parole de Dieu ? Et puis, je voudrais surtout insister finalement sur le fait que le message, c'est la Bible. Alléluia. Il y a des chrétiens, ils veulent faire l'économie de la Bible. Alors, ils cherchent celui qui va leur dire tout de suite les choses. Sauf que le danger, c'est de courir à droite, à gauche. Et puis, certains cherchent surtout ceux qui vont justement distiller le message qu'ils ont envie d'entendre. Là, au moins, je suis sûr que même si nous n'avions pas la même traduction de la Bible, nous avons le même message. Je suis sûr que la parole de Dieu, c'est le message qui est le plus fiable. Alors, le monde est agité, oui, la Bible m'en parle, mais le Seigneur est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma sécurité, elle est dans le Seigneur. Alors, je peux entendre des choses, mais je fais attention, il y a beaucoup de choses que je ne préfère pas écouter. Je préfère surtout écouter la voix de Dieu. Il faut que l'Église revienne au Seigneur, finalement. Mais encore une fois, pas chercher à faire l'économie, de dire, voilà, j'ai envie de savoir par un tel. Encore une fois, vous savez, que ce soit les médias et même dans le monde évangélique, hein, il y a tellement de choses aujourd'hui. Mais le Seigneur, lui, reste le même. Amen. Alléluia. Il est fidèle. Attention au sentimentalisme. Parce que finalement, ce qui a perdu ce serviteur de l'Éternel, c'est que justement il s'est dit, le vieux prophète quand même, on peut lui faire confiance, il a l'air, en plus il avait l'air sympathique. Et oui, mais ça ne suffit pas. Hein. Parfois, vous savez, parfois on fait les choses dans les églises selon nos sentiments. Mais même bien intentionné, on peut se tromper. Hein. Et c'est pourquoi on a besoin encore une fois d'examiner afin de faire les choses selon les sentiments du Seigneur, si je puis dire ainsi. Alléluia. D'être certain d'avoir l'approbation de Dieu. Amen. Amen. Le monde est marqué par les sentiments. Et aujourd'hui, on dit, mais oh, Dieu est en amour, il faut admettre ceci, il faut tolérer cela, etc. Non. Il y a des choses dont Dieu dit, c'est du péché. Hein. Amen. Et si Dieu le dit, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous restreindre. Ou nous empêcher de jouir de choses. Il va nous empêcher de jouir des choses qui vont être nocives pour nous. Alléluia. Mais Dieu nous aime. Amen. Et finalement, il faut aussi que nous examinions nos propres motivations. Parce qu'on a bien compris que les motivations, même si on peut imaginer plein de choses, les motivations du vieux prophète, elles ne sont pas bonnes. D'ailleurs, dès lors qu'il a menti, il n'est pas droit. Donc ses motivations ne sont pas pures, elles ne sont pas droites. Est-ce qu'il a le désir de paraître ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il éprouve un peu de jalousie en se disant « c'est lui qui a été utilisé, et moi j'étais là tout près quand même ?» Est-ce qu'il y a finalement pour lui de la frustration ? Parfois il y a des frustrations qui amènent les gens à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Il y a peut-être de l'amertume en lui, justement, de se dire « pourquoi lui et pas moi ?» L'amertume n'est pas bonne. Mais Dieu peut nous guérir de l'amertume. Alléluia. La rivalité. Finalement, il se cherche lui-même plutôt qu'il ne cherche Dieu. Et ça peut être le danger pour chacun d'entre nous, de nous rechercher, même dans notre service. et de ne plus faire les choses vraiment pour le Seigneur. Que nous puissions faire les choses pour le Seigneur. Amen. Amen. Alors, pour finir, d'abord cet homme qui avait une parole claire de Dieu, quand bien même, effectivement, quelqu'un venait lui dire « un ange m'a parlé », il devait dire « non, non ». À ce moment-là, j'examine les choses avec le Seigneur, mais Dieu m'a dit quelque chose de très clair. Pourquoi finalement maintenant il faudrait changer ? L'apôtre Paul dit bien que si un ange venait nous annoncer un autre évangile, on ne le croit pas. Hein ? Mais parfois, malheureusement, d'autres évangiles ont été acceptés parce qu'il y avait une sorte d'autorité et les hommes ont été impressionnés. Mais ce qui doit nous impressionner, c'est la parole. Alléluia. Et cet homme, finalement, nous découvrons que s'il a pu être rattrapé, c'est parce qu'il s'est arrêté. Parce que, dites-moi, il était déjà parti, et à moins que notre vieux prophète ait un âne super rapide, parce qu'il y allait à dos d'âne. Je pense que les radars n'ont pas détecté avec cette vitesse. Si l'homme avait continué son chemin, il n'aurait pas pu être rejoint. Il s'est arrêté pour se reposer, mais il s'est arrêté. Et il y a des gens qui s'arrêtent. Seigneur, j'ai besoin de faire une pause. J'ai besoin de souffler. Frère, j'ai besoin de souffler. Je fais une pause. Non, je suis toujours avec vous. Je suis toujours avec le Seigneur. Je fais une pause. Mais on sait que la pause, elle pose des problèmes. Eh oui, souvent. Et le fait d'être arrêté, c'est parfois déjà le fait de commencer à reculer. Et c'est le danger. Cet homme n'aurait pas été rejoint, il n'aurait pas été rattrapé s'il avait poursuivi son chemin jusqu'au bout. Alléluia. Et c'est vrai aussi, finalement, quant à ce que nous faisons, quand bien même nous pourrions dire « j'ai fait l'essentiel, 90% de ce que Dieu m'avait donné, si je m'arrête et que je n'accomplis pas le reste, je n'ai pas achevé la course. » L'apôtre Paul pouvait dire « j'ai achevé la course. » Alléluia. Et donc, cet homme n'aurait pas dû s'arrêter. Le fait de s'être arrêté fait qu'il a été rejoint et puis qu'il a été sensible à la parole de ce vieux prophète et qu'il a été trompé. C'est terrible. Encore une fois, c'est terrible d'être trompé par ceux qui devraient au contraire être ceux en qui on doit avoir pleine et entière confiance. Hein. Alors je souhaite qu'aucun de nous ne soit de cela, ne ressemble au vieux prophète, que nous ne soyons pas des Jéroboam non plus qui doutent finalement de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu. Nous avons nous aussi une promesse de la part de Dieu. Mais nous savons qu'il nous faut être fidèles, bien sûr. Alléluia, il nous faut rester dans les voies de Dieu pour être certain d'avoir son approbation. Alléluia. Amen. Amen. Et si peut-être nous rendons compte que nous avons mis en place des stratégies, qu'elles soient, peu importe ce qu'elles sont, ça peut être dans notre vie personnelle, peut-être l'Église, vous savez, on sait que le catholicisme a mis en place des tas de stratégies pour garder les gens. On rebaptisait les divinités païennes. C'était ça, hein? Ah, vous adorez le dieu un tel? Eh bien, maintenant, il s'appelle Saint-Éloi, et en avant! Et c'est ainsi qu'on s'est mis à prier les saints, sans savoir que derrière ça, ce sont les démons. C'est terrible. Quand on cherche des stratégies pour essayer de gagner les gens, de les garder, disons-leur la vérité. Alléluia! Amen! Comment peut-on espérer? Alors on peut bâtir sur le mensonge, mais ça ne vaut rien pour Dieu. L'homme aura eu du succès, mais c'est un échec terrible. Nous voulons bâtir sur la vérité. Alléluia, la parole de Dieu, c'est la vérité. Peut-être parfois elle peut heurter, mais elle est là pour notre bien, pour notre édification et pour que nous soyons vainqueurs. Amen. Alors je ne sais, peut-être quelqu'un peut célébrer les faux dieux sans s'en rendre compte finalement. Mais vous savez, La bonne volonté ou entre guillemets la bonne foi ne suffisent pas. On peut sincèrement se tromper. Et donc, ce qui compte, c'est quand on entend la parole de Dieu, qu'on puisse examiner et dire, voilà, effectivement, ces choses, eh bien, je ne dois plus avoir de part avec cela. Je dois avoir part simplement avec celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Un seul est auprès du Père. Un seul intercède pour nous. Un seul est médiateur, c'est Jésus. Vouloir adjoindre un autre ou une autre médiateur, médiatrice, C'est grave. C'est très grave. Et c'est disqualifier ou discréditer Jésus. Nous, nous savons que c'est Jésus seul. Alléluia. Alléluia. Amen. Le lion ici qui tue l'homme de Dieu, il peut nous faire penser aussi évidemment au lion rugissant, hein, le diable. Mais nous, nous avons le lion de Juda, celui qui a triomphé. Alléluia, c'est Jésus. Alors que le Seigneur nous aide, afin peut-être de nous reprendre si nous réalisons que nous en avons besoin. Si peut-être quelqu'un dit, voilà, je me rends compte que je m'étais arrêté, m'étais assis, et finalement j'étais en danger de retourner en arrière, eh bien, je vais décider de me lever. Si quelqu'un peut-être est parfois enfermé dans le mensonge, parce que ça existe, on a connu des gens, après ils ne savent plus comment s'en sortir. Mais j'ai aussi travaillé avec un menteur. Je peux vous dire que, j'ai déjà eu l'occasion de dire, je préfère un coléreux qu'un menteur, parce qu'un menteur, vous ne savez jamais où vous allez. Et même quand il dit vrai, vous ne savez plus. C'était terrible. C'était terrible. C'était terrible. Alors un chrétien ne peut pas être un menteur. Il a pu l'être avant la conversion, mais il ne l'est plus. Mais s'il l'a fait, il se repent et il reprend la lumière. Alléluia. Amen. Et on peut se, et je termine par là, on peut se mentir à soi-même par de faux arguments. J'ai connu une femme, vraiment, elle était dans le péché. Je lui ai montré avec les Écritures. Mais elle se mentait à elle-même, elle se rassurait elle-même en disant, oui, mais je suis en paix. Ah oui, mais ce n'est pas la paix de Dieu. Et je me rappellerai toujours un jour, un homme de Dieu a prêché. Ce n'était pas à Sens, c'était à Joigny. Et alors qu'il prêchait, il touche cette femme et il dévoile la vie de cette femme qui avait refusé d'entendre. Moi, j'étais derrière, si j'avais été debout, je serais tombé par terre. Tellement il dévoilait, il ne savait rien. Il ne savait rien. Elle n'a pas changé. C'est terrible. Quand vous avez comme ça Dieu qui se sert quand même de paroles prophétiques. Alors, entendons la parole de Dieu pour notre bien. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce. Nous ne voudrions pas être Jéroboam. Nous ne voudrions pas être ce vieux prophète. Et finalement, même cet homme de Dieu remarquable, finalement, il s'est laissé séduire par une parole. Il a été trompé. L'homme qui a ensuite été amené à prononcer un verdict contre lui se condamnait lui-même. Mais finalement, que de dégâts, que de déchets. Seigneur, nous ne voudrions pas que dans l'Église, il y ait des tas de frustrations, de blessures, d'échecs liés au comportement des uns ou des autres. Mais nous voulons être une Église sainte, saine, pure, droite, bien disposée, conforme avec ta parole. Non pas passant pour être vivante, mais étant vivante. Seigneur, fais grâce. Tu connais les besoins, je ne les connais pas. Mais Seigneur, je crois que si tu as parlé, c'est pour le bien. Alors ma prière maintenant, c'est que tu puisses secourir celui ou celle qui a besoin de saisir la main que tu lui tends, parce que c'est une main que tu tends, Seigneur. Nous savons que c'est par amour que tu interviens et que tu parles. Merci Père, merci Jésus. Amen.